Olivier Adam était hier à Manosque pour les correspondances.
L'écrivain, auteur de Falaise, À l'abri de rien et autres passés l'hiver, y a présenté son dernier roman, Le cœur régulier. Une écriture précise et puissante, un style bien à lui. Olivier Adam est un des jeunes auteurs français les plus en vue. Il est d'ailleurs en lice pour le Goncourt 2010, un prix qu'il a frôlé déjà l'année dernière et qui a couronné Marine Diaye. Dans Le cœur régulier, l'auteur est dans la peau de Sarah, quadragénaire cadre dans une entreprise de textile et qui est confrontée à la mort de son jeune frère Nathan. Elle ne sait pas si son accident mortel est volontaire ou non. C'est un livre sur le suicide, la famille aussi. Les rêves d'adolescents de Sarah et Nathan n'ont pas abouti. Lui ne sera pas l'écrivain célèbre qu'il espérait. Elle vivra une vie pleine de conformisme et d'ennui auprès d'un si gentil mari, comme elle dit, et de deux enfants qui lui échappe et qui s'échappe. Sarah part à la recherche de ce que fut son frère. Elle laisse tout tomber, famille, amis, boulot, pour rejoindre le Japon où Nathan a croisé la route de Natsume Tombori. Un profil d'ange, Natsume sauve des candidats au suicide et leur redonne goût à la vie. Le cœur régulier est un livre prenant par les thèmes abordés, mais aussi le style personnel, rythmé et percutant d'Olivier Adam. Il est paru aux éditions de l'Olivier. Je vous propose d'écouter l'auteur qui était présent en correspondance de Manosque, un festival qu'il connaît fort bien pour avoir participé à sa création et aux premières éditions avant qu'il ne se consacre pleinement à l'écriture. Olivier Adam a gardé une tendresse particulière pour les correspondances et une amitié fidèle avec l'équipe dirigée par Olivier Chaudançon. Olivier Adam, avant de parler de votre roman, le regard que vous portez sur ce festival que vous connaissez fort bien pour avoir participé à sa création, les correspondances de Manosque.
Bah, écoutez, c'est un regard... Moi, c'est toujours bizarre de venir ici, mais surtout, je suis toujours très ému de constater depuis... Là, les deux dernières fois que je suis venu, plus l'édition des 10 ans où j'étais venu pour l'anniversaire... Au fond, ce qui me frappe, c'est que le festival est devenu exactement ce qu'on rêvait avec Olivier Chaudançon quand on est arrivé ici, tous les deux. Il y avait Rosine Desfils qui était là dans les bureaux ici. On était trois et on était tous les trois et c'était on a essuyé les plâtres, on a bénéficié de la carte blanche qu'on nous avait donnée. Alors après. Faire vivre le rêve de festival qu'on a en tête, il faut plein de conditions. Il faut que le public suive, il faut que les partenaires suivent, il faut que les éditeurs, les artistes fassent confiance. Et ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à depuis quelques éditions, à ce qu'on voulait, c'est-à-dire la programmation, elle est purement subjective. Cette année, il n'y a pas un auteur qui n'est pas ici parce que soit Olivier Chaudançon, soit Arnaud Catherine, soit Evelyne n'ont pensé que c'était des livres importants, des auteurs importants. Donc il n'y a aucune compromission. Il n'y a personne qui est là parce que, je ne sais pas, on parle de lui ou je ne sais pas quoi. Le niveau des entretiens, le pari qui a été fait de présenter la littérature vivante de manière vivante en laissant des cartes blanches à des auteurs en lecture, en performance, en lien avec la musique, le cinéma, les projections, mais aussi des entretiens longs avec des modérateurs vraiment qualifiés et une heure et demie de parole avec un écrivain en tête à tête. Tout ça qui était à l'époque, il y a 12 ans plus tôt, pas anodin, et pareil, les grandes lectures du soir par les comédiens, d'inviter des chanteurs à interroger leur rapport avec la littérature. Aujourd'hui, ça paraît évident, tous les festivals le font dans notre foulée, mais c'est vrai qu'on était très pionniers et que ça a pu aussi susciter parfois des malentendus ou des incompréhensions. Et là, ce que je vois, c'est que depuis que c'est commencé, les rencontres sont pleines, les gens sont contents. Et aussi... ce qui me frappe, c'est que pour moi, en tant qu'écrivain, me retrouver invité dans beaucoup d'endroits, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où d'abord les écrivains réclament d'être invités. En général, c'est plutôt quand même le contraire presque. Et il n'y a pas beaucoup de lieux où les auteurs et les artistes ont le sentiment, à ce moment-là, de se retrouver. Voilà. Que c'est aussi un moment, en dehors du rapport avec le public, c'est aussi un moment entre nous, où du fait que la programmation est très subjective, disons qu'elle... Elle regroupe des auteurs qui ont un peu tous la même, non pas le même genre de travail, mais la même conception de ce que doit être l'engagement en littérature. Quoi. Et c'est ce qui nous réunit et ce qui fait que, voilà, on n'est pas dans ces festivals où les auteurs se regardent avec suspicion, avec jalousie, où il y a des tables Actes Sud, des tables POL, des tables Gallimard et où personne n'a le droit de se parler les uns les autres. C'est aussi un espèce de moment où des gens qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes centres de travail se réunissent une fois par an. C'est devenu aussi ça, quoi. C'est devenu un grand rendez-vous avec le public, puisque le public est, je veux dire, il refuse du monde partout, donc les places sont pleines pour les rencontres et tout ça. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on rêvait, c'est-à-dire présenter la littérature de manière vivante et ambitieuse et au public le plus large possible, c'est ce qui se passe, et qu'aussi ce soit un rendez-vous. Et puis enfin, ça reste un lieu, c'est aussi un lieu d'expérimentation, où on tente des choses, où des musiciens et des chanteurs et des écrivains tentent des rapprochements, et où souvent, d'année en année, on voit que ça donne des suites. C'est-à-dire que c'est aussi un festival de création, au sens où le nombre de lectures qui ont été expérimentées ici et qui ensuite ont été programmées dans toute la France, enrichies, améliorées, tout ça, voilà, c'est aussi la fonction d'un festival, de donner les conditions de création à une première ébauche de quelque chose qui ensuite va donner des suites, quoi.
Alors hier soir justement, Olivier, vous avez donné une lecture de votre dernier roman, Le Cœur Régulier, une lecture musicale. C'est un livre qui est écrit pour être lu à voix haute.
Bah, en tout cas, ma préoccupation de la voix, de la phrase, de la scansion, de la musicalité. Moi, je travaille mes livres à voix haute, c'est-à-dire que je les lis vraiment, je les mâche. Ça passe vraiment par l'oral et la bouche de toute façon. Et donc, ça a à voir avec l'oralité, avec la musique. C'est pas fait pour ça, mais il se trouve que en amont, dans le travail, l'attention que je porte à tous ces éléments-là fait que très naturellement, au moment de l'oraliser, les choses deviennent évidentes, quoi. Et le lien avec la musique se fait aussi là, c'est-à-dire comme en amont, la musique joue un grand rôle dans ma manière de composer mes livres. Au fond, au moment de poser cette voix-là, ce phrasé-là sur de la musique, les choses se font naturellement. Du moment évidemment que les choses sont conçues pour résonner entre elles, bien sûr.
Alors Le Cœur Régulier, c'est l'histoire de Sarah et de son désarroi devant la mort prématurée. On ne sait pas si c'est vraiment un suicide ou pas, de son frère Nathan. C'est encore une histoire sombre, on a l'habitude avec Olivier Adam. C'est une histoire également qui tient compte, qui a un pied en France, un pied au Japon. C'est votre esprit qui est très fertile, qui a donné corps à cette histoire, Olivier?
C'est parti du Japon, en fait, cette idée. Et puis souvent, comme toujours, enfin, on choisit pas les livres qu'on écrit, quoi. Les livres s'imposent et à un moment donné, c'est imposé à moi du fait de mon expérience personnelle au Japon, cette image première de cette femme réfugiée dans un village au bord des falaises et qui est arrivée dans ce pays. Comme en cavale, au terme d'une longue descente aux enfers, et qui trouve un refuge, un apaisement, un cœur régulier, quoi. Voilà. Et donc, cette fonction du pays, cette omniprésence de la nature, d'une nature sanctuarisée, d'une nature enchantée par la supposée présence des esprits, ce travail d'étirement du temps propre à ce qu'on peut ressentir au Japon, mais aussi au cinéma japonais, à la littérature japonaise, tout ça a déterminé l'esthétique et le rythme du livre, mais a déterminé aussi, voilà, vous dites c'est un livre sombre, mais a déterminé quelle était la quête du livre, c'est-à-dire celle d'une recherche de lumière et celle de la recherche, en tout cas, d'un apaisement, d'où le nom du livre, quoi, Le Cœur Régulier.
Avec des personnages qui sont magnifiques et évidemment un merveilleux personnage qui semble-t-il est réel, Natsume Tombori, ce personnage qui sauve les apprentis au suicide.
Oui, c'est en fait J'ai découvert ce personnage à travers, au début, un portrait dans Libération. Et donc, c'est un type qui existe vraiment, qui s'appelle Yukio Shige et qui vit à Tojimbo. Et Tojimbo est une station balnéaire à 100 mètres de falaises extrêmement spectaculaires, qui sont un genre d'étretat japonais pour aller vite. Mais le lieu est connu. D'ailleurs, quand on parle aux Japonais de Tojimbo, ils ont un mouvement de recul parce que c'est pas quand on dit aux Français étretat, tout le monde dira qu'est-ce que c'est beau. Mais quand on parle aux Japonais de Tojimbo, ils ont, parce que c'est un endroit très morbide, puisque en fait il est choisi et élu entre guillemets par beaucoup de Japonais pour s'y suicider. Le taux de suicide de gens qui se jettent du haut des falaises est stupéfiant. Et là-bas, y a un type qui était le flic en charge de ce district et qui a mené une vie professionnelle dont il disait qu'elle était au fond inutile parce que, au fond, il arrivait toujours trop tard, comme il disait. Donc, il constatait les décès, prévenait les familles. Et quand il est passé à la retraite, il était vraiment bouleversé par cette question-là et il a d'abord essayé d'alerter les pouvoirs publics. À la fois sur la question du suicide au Japon, mais aussi sur la question du suicide précisément à Tojimbo. Donc évidemment, personne n'en a rien à faire. Donc il a décidé, en toute fraternité, en humaniste au fond, de prendre sa part du travail, de faire ce qu'il pouvait faire lui. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il arpente les falaises, et quand il repère un mec qui est sur le, ou une femme qui est sur le point de sauter, il pose la main sur son épaule, et il lui dit « Est-ce que vous auriez une minute à m'accorder ?» Voilà. D'ailleurs au Japon, on l'appelle « Mister One Minute ». Et ce faisant, il brise le moment M où la personne allait sauter, mais il ne fait pas que ça, il ramène les gens à son association, et puis même, il les ramène chez lui, et il leur offre, que personne n'offre plus aux gens qui sont blessés, aux gens qui tombent, une écoute, du soin, du temps, pour faire le tri, pour sortir de la confusion, pour se retaper, et il ne les relâche, entre guillemets, dans la nature que quand il pense que ils sont suffisamment solides pour retourner dans le monde sans aller se rejeter, voilà. Et quand j'ai découvert ce personnage, il y avait le Japon sur le quoi j'étais en train d'écrire, il y avait les falaises qui sont un motif récurrent dans mes livres, il y avait évidemment cette question de rester en vie qui de toute façon hante mes livres, mais parce que au fond rester en vie c'est effectivement ne pas mourir, mais c'est aussi interroger qu'est-ce que ça veut dire qu'être pleinement en vie, qu'est-ce que ça veut dire qu'être vraiment vivant, comment on mène nos vies. Et il y avait cette question qui m'intéresse énormément, c'est-à-dire au fond, dans des sociétés qui sont extrêmement individualistes, fondées sur la performance, la compétition entre les êtres, la productivité, tout ça, on sait bien que cette société ultra-libérale met plein de gens sur le côté, elle blesse. Et parallèlement, la solidarité nationale n'a jamais été autant bafouée, battue en brèche, quoi. Voilà. Ce qu'on appelle la solidarité aujourd'hui, il y a des gens qui appellent ça de l'assistanat avec des bouts de dégoût. Et donc, pour moi, ce type-là, il interroge au fond qui s'occupe de qui aujourd'hui, voilà. Qui prend soin de ceux qui tombent, comment, puisque certains sont laissés au bord, qui les ramasse ou en tout cas qui prend soin d'eux, voilà. Et voilà, et ça renvoie aussi à la fois une question collective et une question intime qui agite Sarah. Qu'est-ce qu'on fait de la douleur des autres? Sarah a un frère qui était suicidaire, qui était maniaco-dépressif. Tous, on a connu dans notre entourage des gens extrêmement fragiles. Et je ne juge pas, mais tous, on a à un moment donné été tentés, ou même on s'est détourné en s'inventant des bonnes raisons, qu'on avait notre propre vie, qu'il fallait protéger les enfants, j'en sais rien. Tous, à un moment donné, on se détourne de la douleur. Qu'est-ce qu'on fait de la douleur des autres? C'est la question qui agite le livre.
Et la présence de Sarah au Japon, c'est justement que Natsume a sauvé Nathan, et ce qui cause d'ailleurs toute la réflexion du livre, effectivement. Il y a des passages un peu plus légers, si j'ose dire, dans votre livre, Olivier. Il y en a un qui est particulièrement croustillant, c'est ce fameux séminaire d'entreprise. Là, on revient en France. Vous connaissez bien ce système, ce milieu?
Oui, bah, en fait, moi, c'est vrai que moi, j'ai le fait de pas être très immergé dans le milieu littéraire, et de pas vivre comme quand même beaucoup d'écrivains dans un milieu uniquement composé d'artistes, etc., fait que j'ai gardé, fait que je continue à vivre au milieu des gens, en gros, et que donc, au fond, j'ai gardé un accès assez large à tout type, à beaucoup de types d'expérience dans le domaine du social ou dans le domaine dans des domaines extrêmement variés professionnellement. Et j'étais très très bien documenté pour cette question-là, parce que d'abord le séminaire que je raconte, c'est le séminaire que m'a raconté une amie qui fait exactement le métier que Sarah fait dans le livre, et qui s'est retrouvée dans un stage de motivation où Edgar Gros-Piron est venu leur faire un séminaire de pensée positive, de winning et tout ça. Et elle était totalement désarmée, parce qu'au fond, et puis il y avait des consultants, ressources humaines, enfin toutes ces conneries, et elle était la seule à... Elle était comme dans ses rêves où on dit aux gens vous voyez pas que c'est des conneries, tout ça, enfin, où tout nous semble absurde et on est les seuls à se rendre compte que c'est absurde. Voilà. Et par ailleurs, il se trouve que mon père a été formateur et que formateur dans le droit où il travaillait, il m'avait raconté quelque chose qui m'avait toujours marqué. C'est que un jour il s'était retrouvé dans un séminaire comme ça, et le mec en ressources humaines leur avait dit: maintenant vous allez vous donner des gifles. Et mon père avait juste dit au type: écoutez, s'il y a quelqu'un qui se permet juste de me toucher mon visage, je lui explose la gueule. Point. Et ça avait créé un pataquès énorme. Les gens, et voilà. Donc ça m'a toujours interpellé. Et après, il fallait se sentir les uns les autres. Et pareil, mon père avait dit, si y en a un qui se permet de me renifler le cul, je lui éclate la gueule, que ce soit bien clair. Donc il a été mis, on l'a mis sur une chaise. On lui a dit: bon, ok, on vous touche pas. Et tous les autres aller se renifler les fesses, se donner des petites claques et tout ça, en croyant que oui, ça allait souder, je sais pas quoi. Enfin, toutes ces techniques de lessivage de cerveau pour la cohésion des équipes et tout ça. Donc voilà, c'est des choses que je connais. Et puis c'est vrai que il se trouve aussi que moi j'ai fait des études auprès des gens qui dirigent ce genre de choses. J'ai fait des études de gestion avec des gens qui sont devenus gestion des ressources humaines, directeur financier de ceci, etc. Donc je les connais bien. Voilà. Et dans mes stages et tout ça, je me suis retrouvé à des endroits professionnels de vie, de cadre et de bureau très proche de ce que je raconte dans le livre. Donc voilà, je suis assez documenté sur ces sujets-là.
Et on sent ces influences et on les ressent particulièrement bien. Merci beaucoup, Olivier. À bientôt.
Vous.